Bonjour, et puis je vais d'abord commencer par remercier les organisateurs, puisque j'ai eu l'occasion de venir quelques fois jusqu'à Saint-Étienne, mais c'est la première fois que je monte sur votre plateau. Hein, j'ai trouvé l'environnement assez joli, assez vert, malgré le temps. Et donc je viens ici pour vous parler de neutrinos. Alors, j'ai un sous-titre, hein, « Les messagers secrets de l'invisible, ne vous effrayez pas ». Ce ne sont pas des extraterrestres ou des esprits malins qui vont nous rendre visite. Les neutrinos, ce sont simplement des particules élémentaires. Bon. Mais ce sont des particules élémentaires qui se distinguent des autres par deux grandes propriétés. L'une, c'est qu'elles sont très, très, très abondantes. On verra tout à l'heure qu'elles sont infiniment plus abondantes que toutes les particules qui forment la matière ordinaire. Alors, pour vous donner un exemple, je tends ma main. À travers ma main, chaque seconde, il y a 1000 milliards de neutrinos qui la traversent. 1000 milliards par seconde à travers ma main. À travers la vôtre aussi, d'ailleurs. Et d'où viennent ces neutrinos? Ils viennent du Soleil. Alors, le Soleil, bon, on ne l'a pas vu aujourd'hui, mais il doit être quelque part par en haut. Hein, donc, les neutrinos viennent d'en haut. Alors, vous pouvez dire, mais pendant la nuit, au moins, on est protégé, puisque le Soleil est de l'autre côté, et donc, il y a toute la Terre qui nous blinde. Eh bien, non. Les neutrinos, on continue à en recevoir 1000 milliards par main en une seconde. Bien sûr, on les reçoit par en bas. C'est-à-dire que les neutrinos qui sont produits par le Soleil ont traversé toute la Terre sans être arrêtés, sans être absorbés. Alors, ce n'est pas tout à fait vrai. Il y a à peu près un neutrino sur un milliard qui s'arrête dans la traversée de la Terre. Un sur un milliard. Heureusement d'ailleurs, parce que les physiciens n'auraient pas de quoi se mettre sous la dent s'il n'y avait pas ce neutrino qui voulait bien s'arrêter dans la traversée de la matière. Bien. Donc, ça, c'est la première grande propriété de neutrinos. L'autre, c'est, bien, puisqu'ils ne sont pas arrêtés par la Terre, c'est que la matière est transparente aux neutrinos. Ils traversent la matière sans laisser de traces. Hein, pratiquement sans laisser de traces. De nouveau, il y a en moyenne, suivant les circonstances, de l'ordre de 1 sur 1 milliard des neutrinos qui traversent quelque chose qui va faire une interaction dans ce quelque chose. Bien, alors, la première question, c'est comment on sait ça? Puisque ces neutrinos sont des choses qui ne laissent pratiquement pas de traces quand elles traversent la matière, comment sait-on qu'ils sont là? Bien, il faut faire un petit peu d'histoire, et ça date de l'année 1930, où dans les années 1920, ce qui était très à la mode en physique nucléaire, hein, c'était d'étudier les désintégrations radioactives. Et désintégrations radioactives, on connaissait la désintégration alpha, la désintégration bêta, la désintégration gamma. Alors, pour mettre les idées au clair, alpha, bêta, gamma, hein, les trois premières lettres de l'alphabet grec, c'était un classement très pragmatique des physiciens. Les alphas, c'est ce qui s'arrêtait le plus facilement, les bêtas, c'est ce qui s'arrêtait un peu moins facilement, et les gammas, c'est ce qui traversait le plus de matière, le plus signifiant quelques centimètres. Bien, et les désintégrations bêta avaient une propriété très remarquable. Les désintégrations bêta, on s'était aperçu qu'elles émettaient un électron. Le brave électron découvert en 1897 par M. Thomson, qui tourne autour des noyaux d'atomes, eh bien, certains composants matériels ont la propriété d'émettre spontanément un électron. Bien. Cet électron semblait porter avec lui une énergie qui n'était pas toujours la même dans un phénomène donné. Je m'explique. En physique, il y a une règle d'or qui est la conservation de l'énergie. Alors, si vous vous souvenez de vos leçons de lycée, eh bien, l'énergie peut prendre différentes formes. Il y a l'énergie potentielle, il y a l'énergie cinétique, il y a l'énergie électrique, il y a l'énergie calorifique, il y a l'énergie nucléaire. Et la grande loi, c'est que l'énergie peut se transformer, mais elle se conserve. Bien. Et dans les désintégrations bêta, on trouvait un phénomène où l'énergie semblait ne pas être conservée, parce que l'électron transportait pour une désintégration donnée, prenons carbone 14 qui va en azote 14 plus électron, l'électron quelquefois portait le maximum de l'énergie permise et d'autres fois il portait très très peu de l'énergie. Et les physiciens se demandaient, est-ce que la conservation d'énergie est violée dans les processus microscopiques? Après tout, c'était de la physique très moderne et on pouvait s'attendre à tout. Et alors un certain monsieur Wolfgang Pauli émit une autre hypothèse. Il dit, ben non, l'énergie se conserve, mais l'électron n'est pas produit seul. Il est produit avec une particule neutre, c'est-à-dire sans charge électrique, qui a très peu d'interaction et donc qui s'échappe. Et donc, elle amène avec elle un peu d'énergie et c'est pour ça que l'électron ne porte pas toujours la même énergie. Alors, il faut vous dire que dans les désintégrations alpha et les désintégrations gamma, la particule que l'on recueille porte toujours la même énergie dans un processus donné. Bien. Alors, cette idée... Au début, il a écrit ça dans une fameuse lettre de décembre 1930, où il proposait, d'après ses propres paroles, une solution désespérée. Mais cette solution désespérée, elle a été très rapidement adoptée par les physiciens, qui disaient, mais oui, c'est sans doute vrai, et parce que ça marchait bien, c'était cohérent avec tout ce qu'on connaissait. Ça impliquait bien sûr une nouvelle particule. Alors, moi qui ai vécu la physique des particules pendant pas mal d'années, je dois dire, aujourd'hui, on n'a pas du tout de scrupules à inventer des particules qui existent ou qui n'existent pas, hein, des particules nouvelles. On en rajoute assez facilement. Tandis que de ce temps-là, ajouter une particule nouvelle, c'était quelque chose de révolutionnaire. Et donc, trois ans plus tard, Enrico Fermi se dit, bien, cette idée est bonne, on va la travailler un petit peu, et il sort toute la théorie de cette particule et la théorie des désintégrations bêta et de bien d'autres choses à côté. Et c'est lui qui donne le nom à cette nouvelle particule. Et comme il était italien, eh bien, il appelle cette nouvelle particule le neutrino, qui veut dire petit neutre en italien. Bien. Alors, pour vous montrer quand même que c'est une particule un peu bizarre, qui laisse très peu de traces, eh bien, on avait la théorie, donc on savait combien de particules sont produites dans des conditions données. Mais la difficulté, c'était de les voir expérimentalement. Et il faudra attendre un quart de siècle, 1956, pour voir des interactions de neutrinos auprès d'un réacteur nucléaire en Amérique. Et ceci, c'est l'expérience de Reines et Cowan, qui donnera le prix Nobel à Reines il y a quelques années. Bien. Enfin, ça vous dit que les expériences de neutrinos ne sont pas si faciles que ça. Alors, il faut malgré tout maintenant mettre les choses en perspective, c'est-à-dire parler un petit peu de physique des particules. La physique des particules, c'est quoi? C'est la physique de l'infiniment petit, c'est-à-dire celle qui s'intéresse à la constitution de la matière. Et vous savez que la matière est formée d'atomes. Ça, c'est... à la fin du 19e siècle qu'on s'en est aperçu. Atome, en grec, ça veut dire indivisible, insécable, c'est-à-dire c'est l'idée qui remonte jusqu'à Démocrite, l'idée que la matière est formée de petits grains, de petites graines, de petites poussières, les atomes. Mais au contraire de ce que disait, de ce qu'on imaginait initialement, eh bien, l'atome n'est pas un point sans structure. Au contraire, au fur et à mesure des progrès, en particulier il y a juste un siècle, on s'aperçoit que l'atome est en fait constitué d'un noyau dur avec des électrons qui tournent autour. Un peu plus tard, on s'aperçoit que ce noyau est constitué de protons et de neutrons. Et encore plus tard, vers les années 1960-70, eh bien, on s'aperçoit que les protons et les neutrons eux-mêmes ne sont pas élémentaires, mais sont constitués de ce qu'on appelle des quarks. Et pour comprendre toutes les particules qu'on a mises à jour dans les expériences, eh bien, il faut 6 quarks. U, C, T, D, S, B. Et 6 leptons. Alors, parmi les leptons, il y a l'électron, avec deux grands frères, le muon et le tau. L'électron, vous connaissez bien. Le muon et le tau ont les mêmes propriétés, mais ont des masses très supérieures. Et puis, il y a cette troisième ligne, qui est la ligne des neutrinos. Donc, entre parenthèses, vous voyez qu'il y a 3 neutrinos différents. On va voir tout à l'heure quelles sont les différences entre ces neutrinos. Alors, ceci, ça résume ce qu'on connaît aujourd'hui de la constitution de la matière. Toute la matière ordinaire, et quand je dis matière ordinaire, c'est toute la matière qui constitue notre environnement terrestre, mais aussi le Soleil, toutes les étoiles de toutes les galaxies dans l'univers, tout repose sur ces 12 éléments, 12 constituants élémentaires. Alors, le quark top, le troisième, a été découvert en 1996, et le neutrino tau, le troisième, a été vu pour la première fois en l'an 2000. Donc vous voyez que c'est relativement récent. Donc on pourrait se demander, est-ce que quand, en continuant la recherche, eh bien, on va trouver, là ça nous présente 3 colonnes, est-ce qu'on va trouver une 4e colonne, une 5e colonne, etc., etc. Eh bien, on sait que non, on a fait le tour de tous les constituants élémentaires. Ça, c'est expliqué sur la courbe à droite. Bon, s'il y a une question, j'expliquerai ce que c'est. Mais on sait qu'il y a 3 colonnes qu'on appelle des familles de particules et 3 seulement. Donc, c'est pratiquement, eh bien, on pourrait dire, on a fini, on a compris. Alors, on a compris, oui et non. Parce que ça, ce sont des constituants élémentaires, mais ils sont élémentaires aujourd'hui, comme le proton était élémentaire en 1920. Pourquoi ? Parce que on sonde de plus en plus petit. Et pour sonder des dimensions de plus en plus petites, il n'y a pas de secret, il faut taper de plus en plus fort, c'est-à-dire avoir des accélérateurs de plus en plus puissants. Et donc, ces particules sont les particules élémentaires avec les accélérateurs qu'on connaît aujourd'hui. Rien ne dit qu'avec des accélérateurs encore plus puissants, on s'apercevra qu'il y a des constituants encore plus élémentaires. Alors, quand je dis élémentaires, ils sont sans structure, c'est-à-dire ce sont des points, et on ne peut rien voir à l'intérieur, au niveau de 10⁻¹⁸ mètres. Alors, l'atome, c'est 10⁻¹⁰ mètres. Ça fait 1/10 de milliardième de mètre. Le noyau, c'est 10, et le proton, le neutron, c'est 10⁻¹⁵ mètres. Donc, vous faites le calcul. Et ceci, c'est plus petit que 10⁻¹⁸ mètres. Et c'est une limite supérieure en ce sens que on ne sait pas quelle est leur dimension. On sait simplement qu'elle est plus petite que. Alors, elle peut être de 10⁻¹⁰, elle peut être de 10⁻¹⁵, comme dans certaines théories qu'on appelle les théories des cordes. Donc, actuellement, voilà notre tableau. Alors, il faut tout de même complexifier un tout petit peu le problème, parce que ces constituants ne sont pas seuls. Il y a des anticonstituants. Alors, les anticonstituants, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, ce sont les mêmes objets, mais qui portent la charge électrique opposée. Alors vous avez probablement entendu parler d'antiélectron. À côté de l'électron, il y a le positron. Et le positron a les mêmes propriétés que l'électron, mais une charge positive. Eh bien, ceci est vrai de tout le monde, là. Il y a un anti-U, un anti-C, un anti-T, et il y a aussi des antineutrinos électroniques, antineutrinos myoniques, antineutrinos toïques. Alors, vous pouvez demander, mais puisque les neutrinos n'ont pas de charge électrique, qu'est-ce que c'est que les anti? Eh bien, en particules, il n'y a pas que les charges électriques, il y a des charges généralisées, ce qu'on appelle des charges leptoniques. Et donc, le neutrino et l'antineutrino ont des propriétés différentes. En fait, pratiquement, c'est assez simple à comprendre. Le neutrino, par exemple, électronique, quand il interagit, va donner un électron, et l'antineutrino électronique va donner un anti-électron. Vous voyez que tout est cohérent. Bien. Alors, pour être complet, il y a en plus ce qu'on appelle les particules de champ, le gamme, le photon, les W, Z, les gluons et peut-être les gravitons. Bon, j'entrerai pas trop dans les détails là-dessus.
Un proton ou un neutron se décompose comment dans les particules?
Ah bien, alors le proton... Ah oui, alors... le proton et le neutron sont construits à partir des quarks U et D seulement. La première ligne UCT a des charges électriques plus 2 tiers. Et la deuxième ligne DSB a des charges électriques moins 1 tiers. Donc vous voyez que pour avoir un proton de charge plus 1, il faut 2 U et 1 D. Et pour avoir un neutron, il faut 1 U et 2 D. Alors là aussi, vous pouvez dire, mais alors la charge élémentaire, ce n'est pas la charge de l'électron qui est la charge du proton, puisque les quarks ont des charges non entières, hein, 2 tiers ou 1 tiers. Il se trouve que les quarks ont des propriétés telles qu'ils ne peuvent jamais être produits librement. Les quarks ne peuvent exister que liés dans les protons, neutrons et les autres particules élémentaires. On ne verra jamais un quark libre. Mais on a de très bonnes raisons de penser que c'est... vous savez, c'est Niels Bohr qui a dit « La physique ne cherche pas à dire ce qu'est la matière. Hein. La physique ne cherche à dire comment réagit la matière dans telle ou telle circonstance. » Et donc là, les quarks, ce sont des objets... On les verra jamais eux-mêmes, hein, mais on en a besoin pour comprendre les conséquences de ce qui se passe quand on envoie un proton contre autre chose. Alors, un portrait robot de neutrino, ben c'est ça. Ça, c'est une assez jolie photo obtenue avec ce qu'on appelle une chambre à bulles. Alors, les chambres à bulles, c'était des détecteurs qu'on utilisait jusqu'à il y a une vingtaine d'années. Maintenant, c'est plus du tout utilisé. Mais c'était très joli parce qu'on voyait, sur des photons, on voyait très, très bien ce qui se passait quand on avait une interaction. Donc là, vous imaginez, vous voyez, le faisceau de neutrinos vient d'en bas. Et puis, à un certain moment, il y a un neutrino. Alors là aussi, de l'ordre 1 sur 1 milliard qui a traversé. Un neutrino qui interagit au point là, qu'on appelle un vertex, et plusieurs particules sont produites à partir de cette interaction. Donc le neutrino, sur quoi interagit-il? Ben, il interagit sur la matière, c'est-à-dire sur des protons, des neutrons, ou quelquefois sur des électrons. Et en reconstruisant tout ce qu'on voit qui sort là, eh bien, on peut reconstruire la direction... et on peut reconstruire les autres caractéristiques du neutrino qui interagit. Alors, de nouveau, le neutrino, lui, se voit jamais. Or, je vous ai dit qu'il y en avait trois. Comment différencie-t-on un des neutrinos des deux autres? Eh bien, les trois neutrinos, expérimentalement, se distinguent très très bien, parce que quand ils interagissent, eh bien, le premier neutrino, il est représenté, et c'est un événement vrais, hein, obtenus dans des détecteurs vrais, pas des détecteurs tout petits. Hein, le premier détecteur, là, l'intérieur, la partie verte, là, fait 7 mètres de long. Eh bien, un neutrino, alors dans ce cas-là, les neutrinos arrivent par la gauche. Eh bien, quand un neutrino interagit, il donne des particules dont l'une est un électron. Donc, ça sera un neutrino électronique. Dans l'autre cas, en bas, il donne une particule verte, là, qui a les propriétés du muon. Et donc, ça sera un neutrino muonique. Et puis, dans le troisième cas, eh bien, il y a, ça c'est beaucoup plus fin à voir, mais il y a une petite trace rouge près du vertex d'interaction, et c'est le tau. Le tau, c'est une particule très vicieuse expérimentalement, parce qu'elle ne dure que 1 mm avant de disparaître, c'est-à-dire de se désintégrer. Donc il faut des instruments adaptés très précis pour voir une telle signature. Alors, les sources de neutrinos, ben, je vous ai dit qu'ils étaient très très abondants parce que ils viennent de partout. Alors, je vous ai parlé du Soleil. Le Soleil, on en parlera un peu plus plus tard. La seconde source qui est indiquée là-bas, c'est une supernova. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une supernova ? Ben, une supernova, c'est la mort d'une étoile. Alors, pas toutes les étoiles finissent comme ça, mais des étoiles qui font une dizaine de masses solaires et au-dessus finissent en une explosion quand le combustible nucléaire s'arrête. Et cette explosion produit un flux énorme de neutrinos, 10 puissance 58. Et ces supernovae, ben, on en connaît, c'est très rare. C'est très rare parce qu'il y a de la lumière associée, et quand une supernova explose, on la voit en plein jour. Sauf que c'est très très rare, et par exemple, dans l'histoire, on en a répertorié quelques-unes. En 1054, il y a la supernova des Chinois, parce que apparemment aucun écrit occidental n'en a gardé la mémoire, alors qu'il y a des écrits chinois là-dessus. En 1572, il y a la supernova de Kepler. Et en 1987, eh bien, il y a eu une explosion de supernova dans l'hémisphère sud. Et par chance, à la même époque, il y avait deux détecteurs de neutrinos qui ont pu voir le flux de neutrinos produit par cette supernova. C'était le 23 février 1987, c'est resté dans la mémoire des physiciens des particules. Alors, cette supernova, en fait, elle n'était pas dans notre propre galaxie, elle a explosé dans le grand nuage de Magellan à 150 000 années-lumière de nous. C'est-à-dire qu'en fait, en 1987, on a vu le passage de quelque chose qui était mort 150 000 ans avant. J'y dis ça parce que les neutrinos voyagent pratiquement à la vitesse de la lumière. Bon, si vous voulez, on parlera de la vitesse des neutrinos. Si vous vous souvenez de l'information d'il y a un an et à peu près un an maintenant, hein, c'était en octobre de l'an dernier, il y avait eu cette information. Moi, à 5h30 du matin, je prenais mon petit déjeuner et j'entends sur France Info: les neutrinos voyagent plus vite que la lumière. Ça m'avait un petit peu chamboulé. Bon, d'autant que je connaissais bien, c'était l'expérience qui vous montrait la troisième figure de neutrino, la neutrino tau. Bon, si vous voulez, on pourrait parler de ça. C'est une anecdote. Toujours est-il qu'à cette époque-là, on a vu une dizaine de neutrinos interagir venant de cette supernova. Et donc, c'était intéressant parce que c'était la première fois qu'on voyait des neutrinos extra-système solaire, et ça permettait aussi de valider les calculs sur la dynamique d'explosion des étoiles. Bon, s'il y a des questions, on pourra aussi parler des étoiles. Une étoile, ça naît, ça vit, ça meurt. hein, une étoile, il y a dans chaque galaxie à peu près une nouvelle étoile par an. Sauf que dans une galaxie, il y a de l'ordre de 50 à 100 milliards d'étoiles, donc une de plus ou une de moins, ça ne fait pas une grande différence. Toujours est-il qu'il se crée, jour après jour, enfin année après année, il se crée de nouvelles étoiles dans les galaxies, et puis les étoiles vivent 5-10 milliards d'années, et puis elles finissent. Alors, celles-ci, ça peut être, c'est ce qu'on appelle des supernovae de type 2. Il y a aussi des supernovae de type 1 qui finissent un peu différemment. Bon, il y a différentes morts, mais les étoiles ne sont pas éternelles. Bien, alors, troisième grande source, les réacteurs nucléaires. Je vous ai dit que les premiers neutrinos ont été vus auprès d'un réacteur nucléaire. Or, la France est championne en réacteurs nucléaires et il y a des expériences auprès de réacteurs nucléaires. Par exemple, le Bugey près de Lyon a servi pendant des années et des années comme source de neutrinos pour aller mesurer certaines propriétés de neutrinos. Et actuellement, il y a une assez grosse expérience qui prend des données à chaud. C'est à la frontière belge où EDF a deux réacteurs. Bon, ensuite, les accélérateurs. Les accélérateurs, alors ici, j'ai présenté comme accélérateur le nouvel accélérateur, enfin le dernier accélérateur du CERN, hein, le LHC. Vous savez, circonférence de 27 km à 100 mètres sous Terre, eh bien, il y a des neutrinos qui sont produits. Non pas, enfin, si, il y a aussi des neutrinos produits au LHC, mais c'est pas la physique qui est développée au LHC. Mais quand on envoie des protons sur une cible, eh bien, on sait produire un faisceau de neutrinos. Alors, l'avantage des accélérateurs, même si c'est moins abondant que d'autres sources comme les réacteurs ou le soleil, etc., c'est qu'on connaît beaucoup mieux les caractéristiques des neutrinos produits, et donc ça permet de faire de la physique fine sur les propriétés des neutrinos. Et puis finalement, dernier contributeur de choc, le Big Bang lui-même. Alors, j'ai représenté le Big Bang comme ceci. Donc, parlons un petit peu du Big Bang. Le Big Bang, c'est l'origine de notre univers, une explosion il y a 13,7 milliards d'années, un moment où toute la matière que nous connaissons était rassemblée en une soupe très chaude, très agitée, et à partir de ce moment, bien, le volume disponible a gonflé petit à petit. Et quand l'espace augmente, eh bien, les énergies se sont assagies. Et il y a eu un certain moment où les neutrinos qui étaient dans la soupe primordiale ont pu se détacher du reste. C'est ce qu'on appelle le découplage. Et ça s'est produit une seconde après le temps zéro du Big Bang. Et ces neutrinos, eh bien, ils sont toujours avec nous. Hein. Se découpler, ça signifie ne plus avoir d'interaction avec le reste de la matière. Donc, ils ont évolué de leur côté sans interagir et ils sont toujours avec nous et on en a ici de l'ordre de 300 par centimètre cube. Alors, 300 par centimètre cube, si vous vous souvenez du nombre d'Avogadro, 6, 10 puissance 23, c'est tout petit. Sauf que le nombre d'Avogadro s'applique à la matière. Là-dedans, il y a à peu près 6, 10 puissance 23 particules par centimètre cube. Mais la matière n'emplit que très, 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 très peu d'espace dans l'univers. Et donc, mes 300 centimètres par centimètre cube de neutrinos, eux, s'appliquent à l'ensemble de l'espace. Donc, si on fait une simple règle 3, on s'aperçoit qu'il y a à peu près 3 milliards de neutrinos par proton, neutron ou électron qui forment la matière ordinaire. Donc les neutrinos sont infiniment plus abondants que les particules de matière, proton, neutron, électron, les atomes et tout ceci. Bien. Alors, Bon, là, j'ai fait le tour des différents contributeurs aux neutrinos. En dessous, il y a une échelle des énergies, c'est-à-dire que, heureusement pour les physiciens, toutes ces différentes contributions se cantonnent dans des gammes d'énergie un peu différentes, ce qui permet de les différencier. Alors, problème expérimental avec les neutrinos, eh bien, ils interagissent très très peu. Donc, pour compenser leur faible probabilité d'interaction, qu'est-ce qu'on va faire ? On va utiliser des détecteurs gigantesques. Et comme exemple archétypal de détecteur de neutrinos, eh bien, voilà une photo du détecteur qu'on appelle Super Kamiokande, qui est construit sous une montagne au Japon. Et de quoi s'agit-il ? Il s'agit d'un immense volume, un cylindre, qui fait 40 mètres de haut. 40 mètres de haut, ça fait 15 étages, par 40 mètres de diamètre. Et dans ce volume, il y a de l'eau. Alors, en fait, cette photo est prise pendant la mise en fonction et le remplissage de ce grand volume. Et vous voyez en bas, ça reflète parce qu'il y a de l'eau en dessous. Et le niveau d'eau monte petit à petit. Et il y a un canot avec trois techniciens. Et ces trois techniciens sont en train de contrôler les uns après les autres bien le capteur, parce qu'il faut bien voir quelque chose s'il y a une interaction neutrino dans l'eau. Et bien, ce sont des capteurs de lumière. Parce que quand un neutrino interagit dans l'eau, ça va, dans ce cas-là, c'est un neutrino qui interagit, par exemple, sur des électrons. L'électron dans l'eau va aller à une vitesse légèrement supérieure à la vitesse de la lumière. De nouveau, on pourra rediscuter de ça. Je parle de vitesse supérieure à la vitesse de la lumière, non pas dans le vide, mais dans l'eau. Dans l'eau, la vitesse de la lumière n'est que de 220 000 km par seconde. Donc, une particule peut voyager à une vitesse supérieure. Et dans ce cas-là, on a une lumière spéciale qui est émise, et c'est cette lumière qu'on va capter par ce qu'on appelle des tubes photomultiplicateurs, qui sont des yeux à la recherche de cette lumière. Et ces yeux, il y en a 11 000 qui tapissent toutes les parois de ce grand cylindre. Donc vous voyez, c'est un truc énorme, ça fait 50 000 tonnes. 50 000 tonnes, ça fait 7 fois la tour Eiffel, hein. Donc c'est quand même pas négligeable. Et c'est dans un détecteur comme ceci qu'on a étudié les neutrinos solaires et les neutrinos atmosphériques, dont je vais parler un tout petit peu. Alors tout d'abord, les neutrinos solaires. Bien, les neutrinos solaires, on connaît comment fonctionne le Soleil. Ça a été historiquement un long problème. Hein, dès le XVIIIe siècle, les philosophes savants se demandaient mais comment fonctionne le Soleil, d'où vient son énergie? Et ils imaginaient que c'était un grand feu avec du carbone. Et on connaissait la taille du Soleil. Et par ce calcul, on s'apercevait que le temps de vie du Soleil devait être de l'ordre de 5000 ans, ce qui était fort peu par rapport à tout ce qu'on savait par ailleurs. Et c'est seulement en 1930, quand la physique nucléaire s'est développée, qu'on a compris que le moteur du Soleil était nucléaire. Et ce qui se passe à l'intérieur du Soleil, c'est ce qu'on appelle une réaction de fusion. C'est-à-dire que quatre protons coalescent, se mettent ensemble pour former un noyau d'hélium. Et dans ce processus, il y a production de deux positrons et de deux neutrinos. Neutrinos du type électronique. Et donc ça, c'est bien compris. Entre parenthèses, ce phénomène de fusion, c'est ce qu'on essaye de maîtriser avec le réacteur ITER qui est en construction à Cadarache actuellement. Alors, ça ne sera pas exactement ça, ça sera à partir de deutérium et tritium, mais l'idée est la même. Alors, à partir de l'énergie qui est produite par le Soleil, on connaît bien, hein, puisque tous les écologistes vous diront qu'on reçoit 1 kilowatt par mètre carré à la surface sur Terre, connaissant la distance, etc. On connaît toute l'énergie produite par le Soleil. Et donc, on sait quelle est l'énergie produite par une réaction de cette forme-là. Connaissant toute l'énergie, on peut en déduire le nombre total de neutrinos produits par le Soleil. Et c'est ceci qui nous donne un flux de 60 milliards par centimètre carré par seconde au niveau de la Terre. Bien. Alors, ceci s'était connu depuis un certain temps. Encore fallait-il le mesurer expérimentalement. Alors, cette expérience Super-Kamiokande a effectivement, pour la première fois, prouvé que des neutrinos étaient bien émis par le Soleil. Et en fait, cette expérience a pu prendre une photo. Alors, ce n'est pas vraiment photo, puisque photo, ça vient de photon, et donc de lumière. Mais un neutrinographe du Soleil. Souvenez-vous, ce détecteur est sous terre, enterré. Alors, en aparté, pourquoi est-ce qu'il est enterré ? C'est parce que on reçoit un flux de rayons cosmiques qui est suffisamment élevé. Ici, on reçoit de l'ordre d'une centaine de muons par mètre carré et par seconde. Or, ces muons, ce sont des particules chargées, comme les électrons, et s'ils passaient à travers un tel détecteur, eh bien, ça serait un parasitage énorme pour aller voir des interactions de neutrinos qui sont très très rares. Donc, on est obligé de se blinder contre ce flux de rayons cosmiques. C'est pour ça que beaucoup d'expériences, plusieurs expériences qui recherchent des phénomènes très rares vont s'enfoncer soit dans des mines profondes, soit dans des tunnels. Par exemple, si vous allez en Italie en prenant le tunnel du Fréjus, eh bien sur la droite, à 5 km de l'entrée, il y a une grande porte, et derrière la grande porte, il y a un laboratoire de physique des particules, parce qu'ils recherchent certaines particules hypothétiques qui nous passeraient à travers le corps ici. Bien, et donc vous voyez, ça c'est une image qui a été produite parce que les neutrinos du Soleil, quand ils arrivent dans cette grande cuve, donnent de la lumière, mais de la lumière collimée, c'est-à-dire la lumière est produite vers l'avant, et donc en corrélant la direction de la lumière vue et puis la direction du Soleil au moment de cette détection, eh bien, on fait le rapprochement, et ce rapprochement nous donne cette image qui est une image du Soleil à travers la montagne. Alors, tout serait bien dans le meilleur des mondes, sauf que bien, le résultat de cette expérience, après plusieurs années, 1500 jours, et bon, les données se sont accumulées depuis, mais après des années et des années, on a bien confirmé que le Soleil produit des neutrinos, donc l'énergie du Soleil vient de phénomènes nucléaires, mais le nombre de neutrinos vus était substantiellement inférieur au nombre de neutrinos calculés par les données de physique nucléaire, c'est-à-dire infiniment plus petit, à peu près la moitié de des 60 milliards par centimètre carré et par seconde. Et ça a été un long problème qui a posé une énigme pendant au moins 30 ans, parce qu'en fait, cette expérience n'était pas la première qui recherchait des neutrinos solaires. On a commencé à rechercher les neutrinos solaires depuis 1960, et on tombait toujours sur cet os qu'on voyait moins de neutrinos que ce qui était prévu par la théorie. Et cette expérience a confirmé de manière claire et nette ce qu'on a appelé le déficit des neutrinos solaires. Alors, de quoi s'agissait-il ? Eh bien, on subodorait, hein, mais expérimentalement, il y avait d'autres informations qui sont venues quelques années plus tard. Ce que je vous ai montré, là, date de 2002 à peu près. Vers 2005, donc je vous parle de choses récentes, hein, vers 2005 est arrivée une confirmation de ce déficit à partir de neutrinos de réacteurs par une expérience, là aussi au Japon. Alors c'est expliqué par les petits graphes ici. Une expérience regardait les productions de neutrinos de réacteurs de tout le Japon à des distances relativement élevées, en moyenne 180 km, et là aussi, elle en détectait moins que ce qui était attendu. Alors il y avait un faisceau de données avec une autre information qui venait de neutrinos atmosphériques. Alors les neutrinos atmosphériques, je vous en ai pas parlé dans les producteurs, ce sont simplement les neutrinos qui nous viennent des rayons cosmiques, hein, parce que les rayons cosmiques primaires, ce sont essentiellement des protons qui sont témoins de cataclysmes très violents dans l'univers, mais la Terre est blindée par notre atmosphère. Notre atmosphère, c'est, disons, une vingtaine de kilomètres de gaz, mais ce n'est pas négligeable. C'est l'équivalent de 10 mètres d'eau. Hein, donc vous imaginez que l'atmosphère, hein, la pression atmosphérique, c'est à peu près 10 mètres d'eau. Donc une particule qui arrive au-dessus, eh bien, en général, ne traverse pas tout l'atmosphère, mais donne diverses interactions, et parmi ces interactions, il y a aussi des neutrinos. Et là aussi, c'est la même expérience, Super Kamiokande, qui a regardé ces neutrinos atmosphériques, et là aussi, il y avait cette énigme que c'est montré sur le graphe ici, cette énigme que les neutrinos qui traversaient la Terre semblaient disparaître. Comment est-ce qu'on interprète ça? Cosinus θ, θ c'est l'angle entre la verticale ici vers le haut et là vers le bas. Vers le haut, les données sont en accord avec les calculs. Les calculs, c'est le rouge, et les données, c'est les points noirs. Tandis que vers le bas, il y a encore une disparition d'un facteur 2 de neutrinos. Et vers le bas, ça signifie quoi? Vers le haut, c'est ce qui est produit dans les 20 km d'atmosphère au-dessus. Vers le bas, c'est ce qui est produit dans les 20 km d'atmosphère aux antipodes. C'est-à-dire, ils sont produits et ils doivent traverser toute la Terre pour arriver jusqu'à nous. Et dans cette propagation, eh bien, il y a une perte d'un facteur 2 de certains neutrinos. Alors ça, ce sont les neutrinos du second type, neutrinos muoniques. Bon, et là aussi, c'est confirmé auprès d'un accélérateur qui se trouve près de Chicago. Là aussi, même information de disparition de neutrinos au cours de leur propagation. Alors tout ceci a donné lieu à idée un peu nouvelle qu'on appelle l'oscillation de neutrinos. On a dit qu'il y avait trois neutrinos différents, nu, mu, tau. Eh bien, il se trouve que ces neutrinos peuvent osciller les uns dans les autres, c'est-à-dire spontanément changer d'identité. Un neutrino du type électronique peut se transformer en neutrino muonique ou tauique. Par exemple, les neutrinos du Soleil, ils sont produits comme neutrinos électroniques, mais on les regarde sur Terre. Et entre nous et le Soleil, il y a 8 minutes fois 300 000 km par seconde, donc ça fait une belle distance. Eh bien, sur cette propagation, il peut y avoir un changement d'identité des neutrinos. Pour les neutrinos atmosphériques, la même chose. Alors, pourquoi est-ce que cette... comment est-ce qu'on comprend cette oscillation ? Eh bien, cette oscillation, c'est une mise en évidence pratique de la mécanique quantique. Alors, je ne veux pas vous effrayer, hein, la mécanique quantique, c'est quelque chose de très compliqué que personne ne comprend. Personne ne comprend parce que le déterminisme, il perd son latin. Hein, les événements ne sont plus... Les phénomènes ne sont plus déterministes. Un déterministe, qu'est-ce que ça signifie ? Ça veut dire que dans certaines conditions, tout est prédictible. Hein, vous lâchez une pierre ici, on sait exactement quel point elle atteindra. Si vous êtes en physique de l'infiniment petit, c'est plus vrai. C'est-à-dire que si vous avez un électron, vous le faites passer à travers une structure... sur un écran, il arrivera en un point. Vous envoyez le même électron, c'est-à-dire un même électron ayant exactement les mêmes caractéristiques, il arrivera en un autre point. Et personne ne sait vous dire à l'avance où il arrivera. La mécanique quantique est indéterministe. C'est intéressant, en un sens, ça redonne un certain libre arbitre aux particules élémentaires. Bon. Alors, si on continue, si on envoie un million d'électrons, chacun va trouver sa place, mais ce qui est très très beau, c'est que dans l'ensemble, ils vont constituer ce qu'on appelle des figures d'interférence ou de diffraction. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas complètement au hasard. Individuellement, ils vont complètement au hasard, mais en groupe... ils forment une certaine figure. Donc, ils ont quand même un certain projet. Bon. Eh bien, la mécanique quantique a l'un de ces théorèmes, c'est ce qu'on appelle les relations d'incertitude de Heisenberg. C'est-à-dire que quand on a une particule élémentaire, on ne peut pas connaître à la fois, absolument précisément, sa position et sa vitesse. Donc, c'est pour ça qu'il y a de l'indéterminisme. Eh bien, l'oscillation des neutrinos, c'est une mise en pratique expérimentale de cette relation d'incertitude de Heisenberg, en ce sens qu'un neutrino électronique a une certaine masse, on va en parler tout à l'heure, un neutrino muonique a une autre masse, eh bien, il peut y avoir un changement de masse, c'est-à-dire un changement d'énergie, sur un certain temps, et ce temps qui est donné par les conditions de Heisenberg, ce temps va nous donner une certaine longueur sur laquelle le second type pourra se propager, et puis ensuite on va développer une oscillation entre les différents types de neutrinos comme ceci. Alors la phénoménologie, bon, elle est assez simple. La seule chose dont je voudrais laquelle je vais m'étendre un petit peu, c'est que ce phénomène d'oscillation n'est possible que s'il y a une masse pour les neutrinos. Le phénomène dépend de la masse des neutrinos en jeu dans l'oscillation. Alors, c'est important parce que très longtemps, on s'est demandé, est-ce que les neutrinos ont une masse ? Alors, c'est relié en particulier à ce qu'on appelle la masse manquante de l'univers. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de la masse manquante de l'univers. On pourra, s'il y a des questions, je pourrais y répondre. Mais il y a une vingtaine d'années, la masse manquante de l'univers, eh bien, on disait, c'est probablement les neutrinos. Parce que les neutrinos, on sait qu'ils sont là, et il suffirait pour eux d'avoir, comme ils sont tellement abondants, il suffirait d'avoir une toute petite masse pour expliquer cette masse manquante de l'univers. Et donc, des expériences d'oscillation de plus en plus précises ont été montées pour essayer de chercher cette masse. Et puis, elles ont trouvé une masse, mais ces masses sont beaucoup trop petites pour expliquer la masse manquante de l'univers. Bon. Alors, bien, ces masses, venons-en au résultat. Bien, dans le scénario simple, parce qu'il y a quelques complications, hein, toujours est-il que des trois neutrinos, le plus pesant, le plus massif, a une masse de l'ordre de 50 milliélectronvolts par centimètre carré. Par c carré, et c étant la vitesse de la lumière. Alors, oubliez l'unité. Hein. 50 milliélectronvolts, la seule chose à retenir, c'est que dans cette unité-là, le proton est 2 milliards de fois plus massif. Donc, le neutrino le plus massif pèse à peu près 1 2 milliardième de la masse d'un proton. Le neutrino, le second neutrino, le numu, pèse 5 fois moins. Quant au premier neutrino, le nué, ben on n'a pour le moment aucune évaluation de sa masse et on dit simplement que c'est encore plus petit. Alors, ces masses sont extrêmement faibles. Ces masses sont l'électron, par exemple, l'électron qui était jusque-là la particule la plus légère, ben l'électron pèse 500 kilo électronvolts, alors que là c'est 50 milli électronvolts. Donc la différence c'est 10 puissance 7, 10 millions. Donc c'est 10 millions de fois plus léger qu'un électron. Mais comme je vous disais tout au début, d'après le modèle du Big Bang, les neutrinos sont 3 milliards de fois plus abondants que les protons et les neutrons. Donc si vous faites 3 milliards de fois plus abondants et 2 milliardièmes de la masse, vous voyez que la masse de l'ensemble des neutrinos dans l'univers équivaut plus ou moins à la masse des protons-neutrons, c'est-à-dire à la masse de la matière ordinaire. Donc, la conclusion, c'est que les neutrinos pèsent autant que toutes les étoiles, les 10 000 milliards de milliards d'étoiles qui forment l'univers actuel. Alors là, vous voyez, je cherchais un adjectif pour souligner cette conclusion. Alors j'ai trouvé ça dans les mémoires de Saint-Simon, hein, éplapourdissant. C'est du langage du XVIIIe siècle, mais enfin, c'est suffisamment fort pour dire que c'est quelque chose d'absolument fantastique. Alors, je vous le dirai tout à l'heure, enfin, je crois. Je regarde ce que j'ai dans mon prochain transparent, oui. Alors, juste un mot là. Les neutrinos pèsent autant que les étoiles. Mais les étoiles, les 10 000 milliards de milliards d'étoiles de l'univers, ne pèsent, ne représentent qu'à peu près 0,5% du contenu de l'univers. Donc les neutrinos représentent aussi de l'ordre de 0,5% du contenu de l'univers. Qu'est-ce que c'est que le reste ? Alors le reste, il y a d'abord des nuages de gaz qui sont très difficiles à mettre en évidence, mais qui sont pas sous forme, qui sont sous forme de protons, d'atomes, d'hydrogène. Ce sont des choses qu'on ne voit pas très bien entre les galaxies ou à l'intérieur des galaxies. Heureusement que c'est là, et on sait à combien ça monte. Ça monte à 4% à peu près. Donc si je fais la somme des étoiles plus de ces nuages, j'obtiens 4% du contenu de l'univers. Et donc, il y a 96% qui est complètement inconnu, invisible, dont on ne sait pas ce que c'est. Alors, on ne sait pas ce que c'est, mais madame sait. Alors, il y a deux composantes dans l'histoire. Il y a ce qu'on appelle la masse sombre de l'univers, ou la masse cachée, ou la masse manquante de l'univers, celle dont on espérait que les neutrinos donnent une explication. Et puis il y a l'énergie noire. La masse manquante, qui se représente par ce qu'on appelle des halos sombres autour des galaxies, c'est-à-dire que les galaxies pèsent beaucoup plus que ce qui est visible à l'intérieur de la galaxie, c'est-à-dire les étoiles. Et quand je dis étoiles, j'inclus les trous noirs et toutes sortes d'autres objets, d'objets célestes. Donc, il y a une sorte de halo. Et pour le moment, mais ça serait toute une autre présentation, pour le moment, on ne sait pas de quoi il s'agit. Initialement, on espérait que ce soit des neutrinos. Ce n'est pas ça. Alors maintenant, on imagine des particules qui ont des propriétés très similaires, hein, puisqu'elles doivent tout traverser sans laisser de traces, sauf qu'elles doivent avoir une masse. Alors, il y a des modèles théoriques, ce qu'on appelle la supersymétrie, qui prédisent des particules qui ont des masses 100 fois supérieures à celles du proton et qui pourraient effectivement être des bons candidats pour expliquer cette masse manquante. Mais ces théories, si on les suit de près, c'est-à-dire si on prend les modèles les plus simples, eh bien, on aurait dû déjà, au nouvel accélérateur du CERN, voir des signaux cohérents avec ces particules. Je vous parlais du tunnel du Fréjus. Eh bien, justement, au tunnel du Fréjus, il y a une expérience qui essaye de rechercher des traces de ces particules qu'on appelle des WIMPs, et pour le moment, on n'a rien trouvé. Et ça fait 20 ans que ça dure. Et alors, l'énergie noire, la masse manquante, c'est 25%, l'énergie noire, c'est 70%. C'est quelque chose encore plus mystérieux qui a été découvert il y a une dizaine d'années, qui a donné un prix Nobel l'année dernière, et on ne sait absolument pas de quoi il s'agit. L'évidence qu'on a, c'est que quand je vous ai parlé du Big Bang, je vous ai parlé de l'expansion de l'univers, eh bien, on pensait que cette expansion était freinée. Pourquoi ? Parce que la gravitation, c'est quelque chose qui tend toujours à contracter. Hein. La gravitation fait rapprocher les objets les uns des autres. Et donc, on imaginait une expansion, mais avec la gravitation, une expansion allant de moins en moins vite, et à un certain moment, une contraction qui commence. Et puis, on vient de s'apercevoir que notre univers actuel est en expansion accélérée. C'est-à-dire que ça gonfle de plus en plus rapidement. Et ceci, on ne comprend absolument pas pourquoi. Et ça représente 70% un fluide inconnu qui donnerait cette qu'on appelle l'énergie noire, parce qu'on ne sait pas ce que c'est. Alors, il y a... Attendez, il ne faut pas quand même... Oh. Bon, je vais aller vite. Il y a une autre branche de physique des particules, de physique des neutrinos, c'est l'astronomie des neutrinos. Alors, l'astronomie des neutrinos, c'est quoi ? Ben, c'est aller chercher des sources de neutrinos dans le ciel. Je vous ai dit qu'on a vu la supernova en 1987. On voit le Soleil, mais on aimerait aller beaucoup plus loin et faire une carte des sources de neutrinos. Bon. Les neutrinos ont beaucoup d'avantages pour une telle recherche, parce que les photons, alors la lumière nous vient de très loin, hein, avec des télescopes suffisamment puissants, on voit des galaxies jusqu'à 13 milliards d'années, d'années-lumière, pardon, en distance, hein, c'est-à-dire très proche du moment du Big Bang. Mais si on cherche des phénomènes, cette lumière a très très peu d'énergie. Si on cherche des phénomènes beaucoup plus énergiques, beaucoup plus violents, c'est-à-dire sous forme de photons, alors on en voit des photons, on voit très bien notre galaxie par exemple est très très bien étudiée en photons énergiques, les galaxies proches, oui, mais on ne peut pas aller très loin à cause de ces gaz, de ces poussières dans l'atmosphère. Les photons sont arrêtés. Les protons, n'en parlons pas. Il en vient de très très loin, mais à cause de leur charge électrique et à cause des champs magnétiques qui existent partout, eh bien, il est impossible de reconstruire leur direction. Et alors que les neutrinos, eux, qui interagissent très très peu, peuvent nous venir de très très loin. Aussi bien en protons qu'en photons, on ne peut étudier que 1% de l'univers à peu près, c'est-à-dire le pourcent le plus proche. On ne peut pas aller au-delà. Tandis qu'avec des neutrinos, a priori, on pourrait sonder beaucoup, beaucoup plus loin. Le problème, c'est que, il faudrait des détecteurs encore beaucoup plus gros que le détecteur japonais de 50 000 tonnes. Alors, il n'est pas question de creuser un trou 10 000 fois plus grand. Et donc, qu'est-ce qu'on fait ? On utilise les moyens du bord, c'est-à-dire soit la glace du pôle sud, soit l'eau de la mer. Et au pôle sud, il y a eu entre 2000 et 2005 à peu près une expérience qui s'appelle Amanda et qui a instrumenté à peu près, vous voyez la référence, c'est la tour Eiffel, là, 300 mètres de profondeur par 100 mètres par 100 mètres de glace du pôle sud. Alors pourquoi la glace ? Parce qu'elle est transparente à la lumière. Là aussi, si un neutrino interagit, à la fin, c'est de la lumière qu'on va détecter. Donc, on met des capteurs comme ceux du détecteur japonais, mais qu'on enfonce dans des puits qui sont creusés dans la calotte glaciaire, et on peut aller très très loin, à 2 km, 3 km de profondeur. Et comme ceci, eh bien, il y a eu une première expérience, cette première expérience Amanda qui a pris des données pendant à peu près 5 ans et qui n'a rien vu de bien spectaculaire. Elle a vu de l'ordre de quelques milliers, vous voyez, entre 2000 et 2003, elle a vu à peu près 3500 interactions de neutrinos. Et ces interactions de neutrinos, eh bien, donne quelque chose de complètement aléatoire, c'est-à-dire il n'y a pas d'événements qui viennent d'une direction donnée. Et ce sont des neutrinos atmosphériques, c'est-à-dire produits proches dans l'atmosphère. Alors, ça signifie qu'il faut faire encore plus grand, et il y a maintenant un détecteur qui s'appelle IceCube, qui, lui, fait 1 km cube. 1 km de profond par 1 km par 1 km. Et donc, si vous allez vous promener là-bas, vous verrez cette expérience sous la calotte, la calotte glaciaire. Hein, vous voyez la surface. Et entre moins 1400 mètres et moins 2400 mètres, il y a ces capteurs de lumière. Et 1 km cube est instrumenté pour aller voir des interactions neutrinos. Alors, aux dernières nouvelles, c'est-à-dire il y a 3 mois à peu près, cette expérience a dit voir 2 événements qui semblent être extraterrestres, c'est-à-dire ne pas venir de l'atmosphère, mais de quelque part beaucoup plus loin. Bon, mais ce ne sont encore que 2 événements, donc il n'y a pas de quoi s'exciter beaucoup. Plus proche de nous, dans la Méditerranée, au large de Toulon, au fond de la mer, il y a quelque chose d'assez similaire qui s'appelle Antares. Et là aussi, ce sont des câbles avec répartis le long du câble ces détecteurs de lumière. Et c'est ancré au fond de la mer à moins 2500 mètres. Et là aussi, vous voyez, on cherche le fond de la mer est sombre, et donc s'il y a de la lumière produite par les interactions neutrinos, ça sera repéré par ces détecteurs. Bon, alors, comme on est proche de la conclusion, les neutrinos, on étudie ça depuis 1930, et il y a encore des tas de questions. Pourquoi 3 neutrinos ? En fait, dans pas mal de théories, on pense qu'il y a 6 neutrinos. 3 neutrinos dont je vous ai parlé, et trois autres neutrinos, mais qui auraient des propriétés très différentes, mais qui sont nécessaires malgré tout pour la cohérence du modèle. Il y a des questions un peu plus techniques. L'une des questions sur laquelle je veux revenir un tout petit peu, et qui est le but actuel de la physique des neutrinos, le Graal de la physique des neutrinos, c'est la violation de CP. Alors, ça paraît être technique. La violation de CP, c'est quoi? C'est la différence entre le monde de la matière et le monde de l'antimatière. Alors, je vous ai dit qu'il y a de la matière, qu'il y a aussi des anticonstituants. S'il y a des anticonstituants, il doit y avoir de l'antimatière. Effectivement, au CERN, on sait produire de l'antihydrogène. L'antihydrogène, c'est un antiproton avec un antiélectron qui tourne autour. Ça, on fait ça depuis une dizaine d'années et on étudie très finement pour vérifier que l'antimonde a les mêmes propriétés ou n'a pas les mêmes propriétés que le monde. Donc, de l'antimatière, on sait en produire auprès des accélérateurs tous les jours. Dans les cosmiques, il y a aussi de l'antimatière. Le problème, c'est que dès que de l'antimatière est produite, eh bien, un positron, par exemple, il va devoir traverser de la matière et il va rencontrer immédiatement sa particule antagoniste. Et particule plus antiparticule, ça fait de l'énergie pure, c'est-à-dire des photons, et donc l'antimatière disparaît. L'antimatière n'a qu'une existence très éphémère dans notre monde. Le problème, c'est que le modèle du Big Bang, qui est pour le moment le seul modèle valable pour expliquer la structuration de notre univers, eh bien, le modèle du Big Bang commence avec un état où il y avait autant de matière que d'antimatière, de l'énergie pure, si vous voulez. Et donc, de cet état, on ne sait pas comment on est arrivé à un monde où il n'y a plus que de la matière et où toute l'antimatière a disparu. Et ça, c'est l'une des très grandes énigmes. Alors, il y a 30 ans, il y avait des théories qui disaient ben, matière et antimatière, au cours de l'évolution de l'univers, se sont séparées. La matière a produit certaines galaxies et l'antimatière a produit d'autres galaxies. On sait aujourd'hui que ce n'est pas vrai, que tout ce qu'on voit dans l'univers, et on voit directement au bout des télescopes, on voit des choses qui sont très lointaines, c'est de la matière comme la nôtre. Et donc, où est passée l'antimatière? Et la piste qu'on a, eh bien, c'est de dire que le monde de la matière et le monde de l'antimatière sont un tout petit peu différents. Et donc, dans les interactions du monde originel, le passage entre matière et antimatière est un tout petit peu déséquilibré. Matière-antimatière, antimatière-matière, c'est un tout petit peu déséquilibré. Et donc, au fur et à mesure d'un très grand nombre d'allers-retours, eh bien, l'antimatière s'est retrouvée en sous-nombre par rapport à la matière. Il y avait un tout petit peu moins d'antimatière que de matière. Et matière-antimatière se sont annihilées en laissant le petit surplus de matière, petit, mais qui a suffi pour constituer tout notre univers. Et alors ça, on veut le vérifier auprès des accélérateurs. Et on connaît déjà cette violation de CP auprès des quarks, mais ça n'explique pas cette disparition de l'antimatière initiale. Et ce qu'on espère, c'est que les neutrinos vont peut-être donner la solution. Alors, qu'est-ce que c'est que la violation de CP au niveau des neutrinos? C'est le fait que l'oscillation entre, par exemple, un neutrino électronique allant en un neutrino muonique est différente de l'oscillation d'un antineutrino électronique allant en antineutrino muonique. C'est très subtil, mais à partir de ceci, les théoriciens disent pouvoir comprendre la disparition de l'antimatière. Bon, alors, je vois que notre organisateur s'énerve. Alors, on va finir. Bon, ça c'est juste pour dire que il y a un gros projet européen pour essayer de vérifier cette variation de CP, envoyer des neutrinos du CERN jusqu'en Finlande à 2300 km et installer en Finlande des détecteurs encore beaucoup plus gigantesques que tout ce qu'on connaît jusqu'à présent. C'est un projet pour 2025 à peu près. Alors, conclusion. Oui, les neutrinos sont massifs, ça a été la grande découverte des 10 dernières années. Leur masse totale représente de l'ordre de 0,5% de la masse de l'univers. Je vous ai raconté que la grande énigme, c'est les 96% manquants. Masse manquante, les neutrinos peuvent être peut-être une solution à la masse manquante. Il y a des modèles où il y a un quatrième neutrino qui justifierait cette masse manquante. Solution à l'énergie noire, il y a aussi des théories autour des neutrinos, mais on n'a pas le temps. Alors, conclusion de la conclusion, la question que vous vous posiez, à quoi servent les neutrinos? C'est une question qu'on me pose de temps en temps. Alors, à quoi servent les neutrinos? D'abord, à faire rêver. Ici, un poème de John Updike. John Updike, il est mort il y a 2 ans à peu près. C'était un grand romancier et poète américain qui a écrit ceci en 73. Neutrinos, they are very small, they have no charge and have no mass. Vous voyez que il faudrait changer son poème parce que maintenant les neutrinos ont une masse. Bon, pour les plus jeunes, un manga, ça parle peut-être plus que un manga. Le neutrino, c'est la matière noire? Non, c'est pas la matière noire. Mais enfin, vous voyez que même les dessinateurs de manga connaissent les neutrinos. Alors, à quoi ça sert? Eh bien, vous savez, la physique fondamentale, on essaie souvent de se justifier à quoi ça sert la physique fondamentale. Alors, il y a plusieurs réponses. On peut dire En 1897, quand M. Thomson découvrait l'électron, c'était de la physique fondamentale. On ne savait pas à quoi l'électron pourrait servir. Bon, les merveilles de la fée électricité sont venues après. Bien. Un autre argument pour soutenir la physique fondamentale, c'est un argument qu'utilise le CERN de temps en temps, c'est de dire que quand un franc suisse, puisque c'est la monnaie de physique des particules, quand un franc suisse est dépensé au CERN, il y a 4 francs suisses qui retournent dans l'industrie européenne. Bon, hein, parce que le CERN est pionnier en ultravide, en électronique de pointe, en cryogénie. Le web vient du CERN. Bon, donc il y a des développements technologiques qui sont utilisés pour faire les expériences de physique des particules qui ensuite trouvent leur place dans d'autres segments de l'activité humaine. Mais pour moi, et j'en suis fier, pour moi, la physique fondamentale, ça reste le but de la physique fondamentale, c'est de produire du savoir, de la connaissance. Alors, ici, la phrase que j'aime bien, qui vient d'Einstein, c'est « Le plus incompréhensible de toute cette histoire est que le monde est compréhensible. » Et quand on analyse cette phrase, ça pose le problème de toute l'énigme. Pourquoi on s'intéresse à des choses qui sont tellement au-delà de toutes nos nécessités quotidiennes? Il est sûr que savoir que l'univers a 14 milliards d'années, bon, ça ne changera rien au problème de, je sais pas quoi, la faim dans le monde ou le chômage. Mais c'est quelque chose qui est quand même... toutes ces histoires de connaissances, c'est pour moi ce qui donne une ampleur, une dignité à l'aventure humaine. Et c'est un petit peu le message que je voudrais faire passer, que tout ceci, c'est aussi beau que de la poésie. Merci.
Ouh, Oui, ça marche. Eh ben, écoutez, je vous remercie pour cette passionnante conférence et pour la conclusion, qui est plutôt pas mal, enfin qui me plaît beaucoup. Voilà, si vous avez des questions, j'ai le micro et il suffit de tendre la main et je vous la porte. En voilà une.
Monsieur, vous avez dit tout à l'heure que vous aviez été ému d'apprendre que il y aurait des particules qui iraient plus vite que la lumière. Pourquoi, s'il vous plaît ?
Alors, attention. Il n'y a pas de particules qui vont plus vite que la vitesse de la lumière dans le vide. La vitesse de la lumière, c'est 299 000, etc., kilomètres par seconde. C'est une vitesse ultime, infranchissable, et qui est même inatteignable par les particules qui ont une masse. Il faut ne pas avoir de masse pour voyager à la vitesse de la lumière, mais si on n'a pas de masse, c'est-à-dire si on s'appelle un photon ou aussi un gluon ou aussi un graviton, on va toujours à la vitesse de la lumière. La vitesse de la lumière, c'est quelque chose, enfin, c'est tout le dilemme de la relativité. La vitesse de la lumière, c'est une constante de la physique qui vous pouvez la secouer comme vous voulez, elle ne change absolument pas. Si vous avez un laser dans le TGV, eh bien, même pour le chef de gare, le photon du laser n'ira pas à 300 000 km par seconde plus 300 km à l'heure. C'est toujours 300 000 km. Bon. Alors ça, c'est dans le vide. Donc dans le vide, il n'y a que les photons qui vont à 300 000 km par seconde et un neutrino, même un neutrino, ira à quelque chose d'un peu moins élevé, une vitesse un peu moins élevée à cause de sa masse. Bien. Mais quand on est dans un milieu autre que le vide, par exemple l'eau, dans l'eau, la vitesse de la lumière, c'est 300 000 km par seconde divisé par C, l'indice de réfraction, le C des lois de Descartes. Et donc ça fait 220 000 km par seconde. Et dans un tel milieu, un électron, il lui suffit d'avoir 10 fois sa masse en énergie de mouvement pour aller plus vite que les 220 000 km par seconde. Il atteindra 250 000, 280 000, il atteindra jamais 300 000, mais il atteindra une vitesse supérieure à celle de... Et c'est important expérimentalement parce que ça permet l'émission d'une lumière qu'on appelle l'effet Cherenkov et c'est un peu l'équivalent du bang d'un avion supersonique. Un avion supersonique voyage à une vitesse supérieure à la vitesse du son dans le milieu. Et bien là, c'est la même chose. Vous avez un électron qui voyage plus vite que la lumière qu'il émet. Et donc, ça donne un bang. Et ce bang, c'est cette onde électromagnétique qui va se traduire en lumière. Alors pour en revenir au neutrino qui voyageait il y a une année plus vite que la lumière, les physiciens étaient très, très sceptiques. Alors bien sûr, on a mis sur la table des spéculations comme les dimensions supplémentaires, les neutrinos peut-être passaient par des dimensions supplémentaires et donc arrivaient dans l'expérience avant la lumière, enfin des trucs comme ceci. Mais personne n'avait jamais trop pris complètement au sérieux cette expérience. J'ai été désolé d'apprendre que c'était une bête erreur de manipulation, une connexion qui était mal mise, et surtout, alors je connais bien ces gens-là, puisque le porte-parole qui a fait l'analyse travaillait avec moi il y a 15 ans, dans mon expérience au CERN, il y a 15 ans. J'en veux non pas aux physiciens, qui eux ont dit, on trouve ce résultat-là, on ne sait pas comment l'interpréter, on le met sur la place publique pour que les autres expériences qui font des choses similaires vérifient. Et ça, c'est l'éthique de la profession. Vous savez, surtout en physique du neutrino, il y a eu des tas d'anomalies qui ont été publiées, c'est-à-dire des choses que personne ne comprenait et qui se sont révélées fausses, ou pas d'ailleurs. Les oscillations, au début, c'était une anomalie, on ne savait pas ce que c'était. Mais s'il y a quelqu'un à qui j'en veux, c'est non pas les médias même, mais les organismes de recherche qui ont mis qui ont soufflé beaucoup de vent dans les voiles de ce résultat en annonçant que Einstein était mort pour la seconde fois et qu'on avait fait une découverte fondamentale. La prudence a beaucoup manqué. Bon. D'un autre côté, quand j'ai discuté avec des journalistes la nuit, il a dit oui, bon, bien sûr, mais malgré tout, ça a le bon côté que les gens ont entendu parler de neutrinos. Et donc,
je vais revenir sur les 300 neutrinos par centimètre cube dont vous parliez au début. Ce sont essentiellement des neutrinos électroniques ou est-ce qu'il y a les deux autres types ?
Non, ils sont démocratiquement présents, c'est-à-dire il y a des neutrinos électroniques, antineutrinos électroniques, neutrinos muoniques, antineutrinos électroniques, tout à 50 par centimètre cube.
D'accord. Ils se déplacent tous presque à la même vitesse ?
Oui. D'accord. Et c'est une vitesse, ils ne sont pas relativistes, ceux-là. Ils vont à une vitesse très très basse. Ils vont à de l'ordre de... ils ont une énergie 10-4. Ils vont à un millième de la vitesse de la lumière.
Pour modéliser leur trajectoire, on prend en compte que les effets de gravitation ou il y a d'autres choses ?
Effet de gravitation ?
Oui, enfin, je veux dire, ils n'ont pas de charge, donc ils sont en ligne droite, tranquillement, oui, jusqu'à la fin de leur vie.
La gravitation, dans toutes ces considérations-là, vous savez, on connaît quatre interactions fondamentales. La gravitation n'entre jamais. Alors, bon, attention, si, sur des distances énormes, il faut parler de relativité générale, et donc... en relativité générale, vous savez que même les photons sont courbés, hein, donc les neutrinos vont suivre les mêmes lignes, mais c'est pas un effet de leur masse vraiment.
Le flux est isotropique ou pas ?
Pardon ?
Dans toutes les directions ? Ou par exemple ceux qui sont originaires du Big Bang, est-ce qu'ils viennent d'une direction précise ?
A priori, oui. Oui. Alors, ceux du Big Bang, on les a jamais vus. Et pour cause, leur énergie est tellement faible que personne n'a imaginé la façon de les voir. Pourquoi on y croit ? Parce qu'ils ont été produits exactement dans la même... pratiquement comme les photons qui nous viennent du Big Bang. Et les photons qui nous viennent du Big Bang, on sait qu'il y en a 400 par centimètre cube ici. Et ce sont les photons de ce qu'on appelle le fond cosmologique qui, lui, a été très, 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 très bien mesuré depuis une dizaine d'années, qui a donné lieu à pas mal de prix Nobel et à partir duquel on a pu mesurer l'âge de l'univers, 14 milliards d'années, etc., etc. Donc, ces photons étant là... Ça valide le modèle du Big Bang. Le modèle du Big Bang nous dit qu'il doit y avoir ces neutrinos, donc on admet qu'ils doivent être là. Mais on les a jamais vus expérimentalement, ceux-là. Tous les autres, on les a vus.
Les neutrinos, puisque vous parlez du neutrino et de l'antineutrino. L'antineutrino est capté par le neutrino et pour créer de l'énergie, non ? Alors, se détruisent-ils tous au fur et à mesure, ou alors où vont-ils, où se rassemblent-ils, où se rassembleront-ils un jour ?
Non, les neutrinos ne rencontreront pas un antineutrino. A priori, ils peuvent, hein, mais la probabilité d'annihilation est tellement, tellement, tellement faible qu'ils ne s'annihileront pas. Hein. Pas pour les... Alors, attention. Effectivement, j'ai été trop vite. L'antimatière est très éphémère pour les positrons, les antiélectrons, les antiprotons, etc. Mais pour les antineutrinos, non, parce que les antineutrinos, comme les neutrinos, n'interagissent pas. Donc, ils passent. Hein, ils passent. Ils passent à travers. Où vont-ils ? Ah, c'est une question presque métaphysique. Bah, ils voyagent. Oui, bon, ils vont suivre les géodésiques, l'espace-temps, et puis ils iront, a priori, en ligne aussi droite que possible jusqu'à une lointaine étoile où ils voudront disparaître, je ne sais pas. Hein, ou un trou noir, peut-être piégé par un trou noir. Attendez, j'ai une question sur le trou noir, là. Si, les trous noirs interagissent avec la matière. Mais d'accord. Mais, alors, je ne sais pas si le calcul a été fait, mais le trou noir, et les trous noirs, hein, c'est pas de la science-fiction. Il y en a un au centre de notre galaxie qui fait 4 millions de masses solaires. Il y a des trous noirs gigantesques qui font des milliards de masses solaires ailleurs. Mais le trou noir a la propriété d'être tellement dense que, d'abord, tout ce qui est proche est absorbé. Hein, et puis, tout ce qui entre à l'intérieur ne peut plus ressortir, c'est-à-dire même les photons. Et pour les neutrinos, ça doit être la même chose, c'est-à-dire là aussi, les géodésiques de l'espace-temps tournent en rond. Donc les neutrinos n'interagissent pas vraiment, mais ils sont piégés.
Bonjour. Comment identifie-t-on la source et le type des neutrinos, par exemple dans l'expérience de Grand Sasso? Comment sait-on que les neutrinos qui sont identifiés viennent bien de la source souhaitée?
Oui, alors.
C'est grâce à leur énergie, enfin. Hein.
Oui, oui. Alors, je vous ai dit comment on distingue les trois neutrinos, neutrino électronique, neutrino muonique, neutrino toïque. Hein, c'est le neutrino électronique va donner un électron. Or, on sait bien expérimentalement distinguer un électron. Un électron, c'est une particule qui va déposer toute son énergie assez rapidement dans ce qu'on appelle des calorimètres. Un muon, au contraire, le muon, c'est ce qui nous tombe du ciel dans les rayons cosmiques parce que le muon traverse beaucoup de matière sans être presque perturbé. Hein, ce qui est sa caractéristique parce que toutes les autres particules, le proton va être absorbé en 10 cm, ça dépend de son énergie, mais en 10 cm de fer, le proton est absorbé. Le muon peut traverser des mètres de fer, s'il a une énergie suffisante, sans être absorbé. Donc le neutrino muonique va donner un muon qu'on sait caractériser. Le neutrino toïque, il donne une petite trace qu'on sait caractériser. Alors, ça, c'est pour distinguer les trois neutrinos. Maintenant, pour distinguer les provenances, ça dépend. Si on est auprès d'un accélérateur, on sait où ils sont formés. C'est ça l'avantage d'un faisceau d'accélérateur. On sait d'où ça vient et non seulement on sait d'où ça vient, mais c'est un flux pulsé, c'est-à-dire que ça vient de l'ordre de quelques millisecondes toutes les secondes. Hein. Et donc, on sait regarder dans la bonne fenêtre en temps. Bon, pour le Soleil, on connaît la direction du Soleil, et donc on corrèle avec la direction du Soleil. Pour les réacteurs, on connaît aussi, quoique ça soit à basse énergie, et donc à basse énergie, on ne voit pas très bien les directions, sauf que quand on est auprès d'un réacteur, c'est le réacteur qui est beaucoup plus puissant que toutes les autres sources, etc., etc. Hein, c'est comme ça qu'on fait. Ah oui, j'avais...
Alors, excusez-moi, c'est pas pour les neutrinos, c'est pour l'énergie noire. Est-ce que vous pensez vraiment qu'un jour, quelqu'un va finir par comprendre Et est-ce qu'une fois qu'on aura compris, on n'aura plus rien à chercher, en fait?
Bon, l'énergie noire, c'est effectivement l'une des très grandes énigmes actuelles. Alors, il y a différentes options. Il y a des théories. Il y en a une qui s'appelle la quintessence. Alors, la quintessence, c'est un champ scalaire qui emplit tout l'univers. Et il paraît que c'est très théorique tout ça. Moi, je suis expérimentateur, mais ça n'est pas tout à fait en adéquation avec ce qu'on voit. Bon, il y a d'autres. Il y en a une que j'aimais bien, mais apparemment les théoriciens n'aiment pas beaucoup. C'est des neutrinos de masse variable la masse des neutrinos aurait diminué au cours de l'évolution de l'univers, et ça donne quelque chose qui a les propriétés qui expliqueraient l'énergie sombre. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a le fait que, mais ça c'est plutôt pour la masse manquante, le fait que la loi de gravitation de Newton n'est plus en 1 sur R carré, mais pour des très grandes distances a une dépendance différente avec la distance, et donc ça chamboulerait les lois de la gravitation. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a quelque chose. Toute cette énergie noire est basée sur la relativité générale, et dans la relativité générale, l'un des grands grands points de départ, c'est que l'univers est uniforme et homogène. Bien. Et l'univers n'est pas homogène, autrement on ne serait pas là. Hein? Donc, il y a certains théoriciens qui sont en train de regarder l'idée qu'on est dans une sorte d'îlot un peu différent de l'ensemble de l'univers. Vous imaginez si l'îlot est un peu plus dense localement, on peut avoir des mouvements qui semblent être une accélération de l'univers, mais c'est une vision parce que de notre point d'observation, mais qui ne serait pas vrai ailleurs. Personne n'a la réponse. Est-ce qu'on l'aura un jour? Oui, je crois. Mais ça demandera probablement du temps.
Bonjour, je rebondis un peu là-dessus. La théorie des multivers,
ouais.
qui pour certains donne une forme de réponse, hein, à pas mal de doutes actuels. Vous en pensez quoi, vous, personnellement?
Oui, je vois que l'information la plus moderne est arrivée jusqu'à Tens. Oui, alors ça c'est une. C'est un problème très intéressant, les multivers. Alors, on vit dans un univers qui semble pile adapté pour notre existence. Bien. Pourquoi? Parce que dans notre univers qui fonctionne avec les théories physiques, il faut mettre à la main un tas de constantes de la physique, comme la vitesse de la lumière, comme pour l'évolution de l'univers la constante cosmologique, mais aussi comme la masse du proton, la masse du neutron, la masse de l'électron, etc., etc. Or, on ne sait absolument pas expliquer toutes ces constantes. Pourquoi est-ce que la masse du proton c'est 1,835 GeV et la masse du neutron 1,838, etc., etc. Bon, c'est-à-dire que on n'a pas une grande théorie qui explique tout. On a des modèles qui dépendent des mesures et donc qui dépendent de toutes ces constantes. Et en particulier, si la masse du neutron moins la masse du proton était un tout petit peu différente, eh bien, tout se serait passé d'une manière différente. Le Big Bang aurait eu lieu différemment, et donc on ne serait pas ici. C'est ce qu'on appelle le principe entropique. Hein, certains cosmologistes en particulier ont dit que le hasard a si bien fait les choses qu'il doit y avoir une sorte de projet dans l'univers dans lequel on vit, hein, pour avoir permis notre existence. Bien. Alors, est venue, en échappatoire, si vous voulez, est venue cette théorie du multivers. L'idée, c'est que le Big Bang est né d'une fluctuation quantique, là aussi, c'est des incertitudes de Heisenberg, dans un vide primordial, bien, il y a 13,7 milliards d'années, et puis l'univers a grossi, et il est ce qu'il est actuellement. Mais s'il y a une fluctuation quantique comme ceci dans un vide primordial, l'univers, bon, il a grossi, mais le vide primordial, il est toujours là, au-delà de l'univers. Et donc, d'autres fluctuations quantiques ont pu naître ailleurs, et donc donner d'autres univers. Et en particulier, ceci est relié à ce qu'on appelle la théorie des cordes, qui est la théorie du tout, la théorie ultime, que certains théoriciens travaillent depuis X années, qui en particulier demanderait une explication de pourquoi il y a trois familles, pourquoi la masse du proton est ça, etc., etc. Et donc, la théorie des cordes suggère qu'il y aurait 10 puissance 500 de ces univers différents. Et chacun a son jeu de constantes physique. Et donc, dans cette théorie, vous voyez que le principe anthropique n'a plus lieu d'être parce que on est dans cet univers parce qu'il avait les bonnes caractéristiques. Mais il y a d'autres univers qui sont tout aussi valables d'un point de vue et qui ont d'autres caractéristiques où on n'est pas, mais bon, on n'est pas un petit peu comme on est sur Terre, parce que c'est la Terre qui avait les bonnes conditions pour notre venue. Sauf que c'est de la métaphysique, en ce sens que on est coincé au niveau de la physique expérimentale, on est coincé dans notre univers, et donc tout ce qui se passe au-delà, c'est de la spéculation. On n'aura pas de preuves expérimentales de ces idées. Et donc, ça nous laisse avec le même problème sur les bras. Mais le multivers, c'est assez joli. Oui.
Oui. Donc, vous avez évoqué deux fois là, récemment la géodésique de l'espace-temps, si vous pouvez en dire deux, trois mots.
Oh. Géodésie de l'espace-temps. Ah. Alors, comment dire, la masse, en relativité générale, la masse ou l'énergie-masse et puis l'espace sont reliés. C'est-à-dire que c'est la masse qui forme, qui
je n'ai pas entendu la question.
Ah oui, pardon. Non, c'est une question sur qu'est-ce que c'est que les géodésiques de l'espace-temps. La masse et l'espace sont reliés. Les géodésiques, ce sont des, si on est dans le vide, ce sont des droites comme ceci, hein, une sorte de comment ?
De ?
Oui, c'est un grillage, si vous voulez. Et donc, c'est là où les photons vont tout droit, les neutrinos vont tout droit, etc. Mais s'il y a une masse, alors ces géodésiques vont être courbées. Alors, la preuve magnifique de ceci, c'est l'expérience qu'a fait un certain monsieur Eddington juste après l'écriture de la relativité générale d'Einstein en 1910. Il a fait son expérience en 1919, où Einstein prédisait que la lumière ne va pas en ligne droite auprès d'une quand elle est au voisinage d'une grosse masse. Et pendant une éclipse de soleil, justement, ce monsieur Eddington a vérifié que le parcours de la lumière faisait comme ceci, au voisinage. Donc, ce qu'on appelle les géodésiques, c'est la ligne droite perturbée par la présence des masses, si vous voulez. Alors, qu'il va falloir terminer.
Oui, peut-être pour une dernière question.
Une dernière question. Allez-y. S'il n'y a personne
d'autre. Non, plus humainement, les neutrinos nous traversent, vous avez dit, à nombreux exemplaires. Sait-on s'ils ont un impact sur la matière qui compose l'être humain ?
Oui, ils nous traversent, sauf un de temps en temps. Mais je vous dirais que des neutrinos, non seulement ils nous traversent, mais vous-même, vous en produisez. De l'ordre de... Comment ? Vous en émettez, oui, à cause de la radioactivité, à cause de votre radioactivité. Vous, chacun de vous, selon votre corpulence, vous émettez quelques milliers de neutrinos par seconde. Hein. Mais, alors, effectivement, si vous étiez dans un bain énorme de neutrinos, les neutrinos interagissent quand même. Hein. Par exemple, ça a été une théorie il y a une vingtaine d'années disant que les dinosaures ont disparu à cause d'une explosion de supernova très proche qui avait émis un flux tel que des interactions de neutrinos avaient développé je ne sais pas quel cancer dans le corps des dinosaures. Donc s'il y avait une supernova très très proche et donc des flux infiniment plus grands que tout ce qu'on connaît, ça pourrait causer des interactions, oui. Qu'est-ce que ça ferait ? Bon, ça dépend du flux. Actuellement, oui, bien sûr. On reçoit, je vous ai dit que vous recevez à peu près 100 muons chaque seconde dans votre corps. Ça fait infiniment plus de dommages, hein, parce que le muon est électrisé. Enfin, donc, il va faire des interactions électromagnétiques infiniment plus que tous les neutrinos qui peuvent vous traverser.
Bien, je crois qu'il ne nous reste plus qu'à remercier M. Vannucci.